Au flux et à mesure, le magazine de Tchat FM, du lundi au vendredi à 18h. Lundi, Shifumi avec des archives ou des productions exceptionnelles.
Il faut vivre et il faut penser intensément à notre époque, la construire et ne pas avoir peur. Et nous ne serons jamais, mais jamais trop en avance.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans Au flux et à mesure, nous vous proposons d'écouter un podcast de la série Penser les luttes de Radio Parleur, média indépendant spécialisé dans la couverture des luttes sociales. Ce lundi, on parle de la privatisation de la SNCF avec Erwan Manac, journaliste pour Politis, et Alexandra Debézieux, directrice générale de RailCop, la première coopérative ferroviaire de France. Bonne écoute.
Dis, tu sais pourquoi 2020, c'est une année bissextile ?
Bah ouais, c'est parce que ça fait une journée de plus pour manifester.
Ah ouais !
Pour ne rien manquer de l'actualité des luttes sociales en France, écoutez la chaîne L'Actu des luttes de Radio Parleur.
Une rédaction avec des vrais gens dans la vraie vie du terrain, des vraies luttes tous les jours.
Salut à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Penser les luttes, votre podcast hebdomadaire pour penser ensemble les mouvements sociaux. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle qu'à Radio Parleur, nos seuls propriétaires, eh bien c'est vous, c'est votre soutien financier qui garantit notre indépendance. Rendez-vous donc sur radioparleur.net, vous cliquez sur l'onglet « Faire un don », c'est rapide et c'est la garantie d'un média libre et indépendant dédié aux luttes sociales. Allez, montez à bord, aujourd'hui on va prendre le train pour parler de la SNCF, du rail et surtout de la privatisation en cours.
Enfin, quelque chose se passe !
Pensez les luttes.
Pensez les luttes.
Quelque chose, mais quoi ?
Votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur.
Il faut arrêter de parler en notre nom, parce qu'on est assez grand pour parler, on est assez grand pour prendre la parole. On en a ras-le-bol d'entendre des phrases de merde.
Une émission pour penser ensemble les mouvements sociaux.
Peu importe ta couleur, peu importe ton appartenance sexuelle, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu manges, ce combat t'appartient.
Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
Je crois pas que ce mouvement il va s'arrêter de sitôt. On se quittera plus jamais, quoi. C'est impossible.
Des petites lignes qui ferment, une politique tarifaire impossible à suivre, des cheminots qui craquent et un chemin de fer qui change. Depuis le 1er janvier, c'est officiel, fini le monopole public, le rail est ouvert à la concurrence. La SNCF a changé de statut pour devenir une entreprise comme les autres, un changement historique qui bouleverse la réalité du train en France. Alors quel changement pour les usagers, devenus maintenant des clients et des clientes ? Quelles conséquences pour les salariés, de moins en moins cheminots ? Quelle alternative aussi existe à l'arrivée de grandes compagnies privées dans nos gares ? Le rail, quel train pour demain ? C'est le thème de votre podcast Penser les luttes cette semaine. Et comme d'habitude, ça commence avec un petit son.
Depuis le 1er janvier, nous voici dans un nouveau groupe SNCF. Mais pourquoi un nouveau groupe ? D'abord, pour apporter une solution aux problèmes récurrents de financement du réseau français. Mais aussi, pour trouver un fonctionnement opérationnel plus efficace et mettre les transporteurs en ordre de bataille sur le marché du rail, ouvert désormais à la concurrence. Les enjeux de notre nouveau groupe ? Assainir les finances du réseau, nous unifier pour être plus forts, et poser un nouveau cadre social. L'entreprise a besoin de gagner en efficacité pour que les transporteurs fret et voyageurs soient compétitifs face à leurs concurrents. Avec la nouvelle SNCF, le fonctionnement est plus simple. Le groupe crée une unité forte autour d'une identité collective, nourrie d'une culture commune, de la performance, de l'amélioration continue, de l'efficacité industrielle et de l'innovation. Aujourd'hui, la SNCF est un groupe uni qui construit son nouveau projet d'entreprise. Ce sera le projet du développement du ferroviaire, le plus durable des grands modes de transport.
Allez, prenez le programme !
Radio Parleur.
plusieurs extraits d'une vidéo de communication de la SNCF qui présente l'évolution du statut de l'entreprise depuis le 1er janvier 2020. Innovation, assainissement des finances, nouveau cadre social. Alors, les mots sont lancés, on va en parler avec nos invités, je vais vous les présenter. Erwan Manac, bonjour.
Bonjour.
Erwan, vous êtes journaliste à Politis et vous publiez aux éditions La Ville Brûle une BD enquête très complète sur la privatisation de la SNCF. Elle se nomme Un train d'enfer, le dessin est assuré par Gwenaël Manac. Alexandra de Bézieux, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes avec nous via la magie de l'internet, vous êtes directrice générale de Railcoop. Alors c'est l'un des nouveaux acteurs qui souhaite profiter de l'ouverture de la concurrence pour exploiter bientôt des lignes de train dans l'Hexagone. Une grosse différence toutefois, Railcoop c'est aussi la première coopérative ferroviaire de France, c'est-à-dire qu'elle est détenue non pas par des actionnaires mais par des sociétaires et ses salariés. On va expliquer un peu tout ça, on va en parler. Mais d'abord je commence avec vous, Erwan Manac. Est-ce qu'on peut expliquer rapidement en quelques mots comment et pourquoi la SNCF, entreprise publique historique dans la tête de Français et des Françaises, se retrouve aujourd'hui privatisée? Ça veut dire qu'elle appartient plus à l'État?
Si, enfin, l'entreprise SNCF reste à capitaux publics. D'ailleurs, il n'est pas pour l'instant question que ça change. On a vu par exemple avec la Poste que ça pouvait le rester. Seulement, le rail est ouvert à la concurrence et donc c'est indirectement que le rail va se retrouver exploité par des entreprises privées. C'est pour ça que nous, on a pris ce parti, ce qui n'est pas un consensus. Hein. Y a beaucoup de gens qui refusent de parler de privatisation du rail. Nous, on a pris ce parti parce que je pense qu'il faut qualifier les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que l'idée de la concurrence, c'est de faire venir du privé, partant d'une idéologie, le postulat de départ, que l'initiative privée était plus efficace que, dans beaucoup de domaines, l'initiative privée. Public. Et alors cette histoire, on la connaît, hein, France Télécom, La Poste, tous les grands réseaux. Finalement, la SNCF, c'est un peu le dernier grand réseau à être privatisé. Et ce qu'on explique un petit peu dans le livre, c'est et pour cause, c'est-à-dire que c'est compliqué, les trains.
Alors, dans votre livre, vous expliquez les nombreuses conséquences de cette politique. La plus visible, on peut la donner, c'est la fin de l'embauche de nouveaux salariés au statut des cheminots. Qu'est-ce que ça change, en fait?
L'idée, c'est donc de faire des gains de productivité. Ça, c'est le gros credo de la SNCF et donc de se comporter ces réformes hein, qui sont en fait dans le même bain idéologique de penser qu'il faut donc gagner en efficacité. C'est ce qu'on entend aussi dans le petit jingle que vous avez fait écouter qui est d'ailleurs qui est très marrant. Je peux m'arrêter dessus quelques, j'ai pris 2-3 notes en l'écoutant. Il est hyper intéressant. En fait tout est dit, c'est-à-dire que la SNCF dit on va se mettre en ordre de bataille. Donc voilà le projet. Le projet qui nous est proposé, c'est une grande bataille. Finalement, pourquoi, en fait, quelle était la nécessité de se livrer comme ça une grande bataille pour des parts de marché, puisque c'est ce qu'on comprend dans la suite du jingle. On va gagner en efficacité. Donc ça, ok, on comprend bien que l'ouverture à la concurrence, l'idée, c'est de challenger les uns les autres, de mettre tout le monde un petit peu dans son retranchement pour les forcer à s'améliorer, à gagner en efficacité. Et c'est ce que dit le jingle. On va avoir une culture de la performance, donc c'est là que la question du statut intervient. On va améliorer les recrutements, on va pouvoir payer les uns au mérite, flexibiliser tout ça. Ça, c'est des grands classiques. Pourquoi ? Et c'est là que le jingle devient intéressant. Pourquoi ? Pour être compétitif face à ses concurrents. La boucle est bouclée, c'est-à-dire que le seul intérêt de la concurrence, c'est qu'on a comme ça une bagarre entre concurrents. Et on ne nous parle pas de faire circuler des trains. C'est-à-dire qu'à aucun moment, la démonstration est faite que la concurrence va faire circuler plus de trains ou de meilleure qualité. Simplement, on crée un marché. Et voilà. Donc, et c'est pour ça que nous, notre propos un petit peu dans le livre, au final, il est de dire que tout ça est un petit peu construit pour des raisons idéologiques qui n'ont pas été démontrées. On ne nous a pas expliqué pourquoi les trains, la concurrence ferait circuler plus de trains et en quoi elle serait vertueuse, finalement.
Alexandra de Bézieux, Railcoop, c'est une coopérative ferroviaire. On va un peu expliquer ça. D'abord, je voulais savoir si elle était née en réaction à l'annonce de ce projet d'ouverture à la concurrence. Est-ce que c'est une réaction à une opportunité ou au contraire à une inquiétude en disant « Ah, un service public est menacé, on va essayer de créer notre propre manière de faire service public ».
Alors, j'ai envie de dire oui, c'est forcément l'ouverture à la concurrence nous donne la possibilité de penser à un nouveau modèle et de proposer une entreprise ferroviaire qui est sur un nouveau modèle. Le constat à l'origine de Railcoop, c'était plutôt de se dire, c'était de se dire effectivement, il y a des choses à faire autour de la mobilité ferroviaire. Enfin, il y a des choses à faire pour améliorer la mobilité, la desserte des territoires ruraux. Et il y a des choses à faire quand on pense enjeux climatiques et transition écologique. Et quoi de mieux que le train finalement pour porter ce type de mobilité qui fait partie des mobilités les moins carbonées. donner. Donc effectivement, la réflexion de départ, quand le projet est né il y a un peu plus d'un an, c'était de se dire effectivement comment on remet des trains dans les territoires. Et il s'avère que là, avec l'ouverture à la concurrence, ça nous laisse la possibilité ça nous a laissé la possibilité de créer RAICOP, donc qui n'est pas encore entreprise ferroviaire, qui va le devenir l'année prochaine pour faire circuler nos premiers trains dès l'année prochaine. Fret, alors le fret est déjà ouvert à la concurrence depuis un certain temps, mais également voyageurs dès 2022. Donc oui, c'est sûr que l'opportunité, l'ouverture à la concurrence nous offre finalement cette opportunité de proposer un modèle alternatif. Et je me permettrais, si je peux réagir aussi aux propos d'Erwan, je suis assez d'accord avec Erwan et avec le jingle qui est passé. C'est vrai qu'on entend beaucoup la logique de la concurrence avec comme si on était sur un marché où finalement le gâteau devait être partagé. Mais sauf qu'en fait, le ferroviaire, c'est pas ça. Et ça m'interpelle toujours quand j'entends parler du ferroviaire en ces termes-là, parce que on sait tous que c'est un marché de l'offre plus que de la demande. Donc en fait, plus on a de trains qui circulent et plus les gens vont prendre le train. Donc l'idée, c'est plutôt de penser en complémentarité, en partenariat, en synergie. Et c'est vraiment RAICOP ce qu'on souhaite faire. C'est-à-dire, c'est pas du tout aller prendre des parts de marché à la SNCF ou à d'autres opérateurs ferroviaires demain. C'est plutôt de voir sur certaines lignes qui ont été abandonnées pour x ou y raisons, des bonnes ou des mauvaises. J'en sais rien, je suis pas là pour juger. Mais en tout cas, force est de constater qu'aujourd'hui, il y a quand même une partie du réseau qui n'est plus utilisé ou mal utilisé, où les trains ne circulent plus ou quasiment pas. Et nous, ça a été de nous dire, qu'est-ce qu'on fait pour remettre des trains sur ce réseau, pour reconnecter des territoires avec des dessertes qui ont du sens pour les habitants, pour les entreprises du territoire, pour tout le monde. Et donc, c'est vraiment de là qu'est parti le projet RAICOP.
Et ça part de quoi au départ? C'est un manque que vous ressentiez personnellement? Je ne sais pas, vous habitez peut-être sur une ligne qui a été supprimée ou quelque chose comme ça. Comment vous vous êtes dit, il faut qu'on prenne nous notre destin en main quelque part sur cette histoire de rail?
Oui, le projet est né du côté de Figeac, dans un territoire qui est très rural, effectivement, où il y a des enjeux de suppression de lignes, où il y a très peu d'alternatives à la voiture individuelle, pour être clair. Donc effectivement, on va dire le noyau dur des fondateurs est situé dans ce coin-là, et on s'est dit qu'il y avait certainement quelque chose à faire par rapport à ça. Donc oui, c'est né de ça, mais c'est né aussi de la convergence, en fait, de se dire bien sûr que y a un problème de desserte et donc effectivement, qu'est-ce qu'on peut faire pour imaginer les choses différemment? Et c'est là aussi qu'est intervenue la sensibilité de certains, notamment Dominique Guéret qui est le président de RAICOP actuellement, qui vient du monde coopératif, qui a beaucoup travaillé dans le monde coopératif, notamment dans le domaine de l'énergie. Au moment où il y a eu la libéralisation du secteur de l'énergie, il a contribué avec d'autres à constituer des coopératives d'énergie. Donc voilà, il avait cette sensibilité là. Et on s'est dit que pour le train, ça avait du sens en fait de créer une coopérative, de créer cette intelligence collective. Et c'est pas un vain mot, c'est pas un slogan. C'est-à-dire qu'au sein de la coopérative, les sociétaires de RAICOP s'engagent, sont engagés. Là, actuellement, on a un cercle de travail où il y a plus de 80 sociétaires qui sont engagés à réfléchir à ce que pourront être nos prochains services sur le service annuel 2023. Donc, quelles lignes on doit réouvrir, pour quel bénéfice pour le territoire, pour quel bénéfice pour les habitants. Donc voilà, on est vraiment parti de cette idée de se dire, oui, il y a un problème de desserte, comment on le résout? Et pour le résoudre, il faut penser sans doute la mobilité un peu différemment, en associant vraiment toutes les parties prenantes des territoires à la conception du service ferroviaire, et être sur un modèle économique. Alors, je dis pas par rapport au modèle SNCF, mais nous, notre modèle économique, effectivement, c'est une SIC, Société Coopérative d'Intérêt Collectif, dans lequel en fait on réinvestit la majorité de nos bénéfices au service de notre objet social. Donc on n'est pas là pour rémunérer des actionnaires, on est là bien évidemment pour créer de la valeur qui va être réinjectée dans l'objet social de l'entreprise.
On va en parler d'ailleurs. Erwan Manac, pour revenir un peu à la SNCF, cette privatisation, elle se traduit pour les usagers aussi, qui sont maintenant donc des clients et des clientes. Alors les conséquences sont nombreuses et la BD la détaille très bien. Je voulais évoquer d'abord un truc, c'est la multiplication des logos et l'effacement de la marque SNCF derrière une marque Oui. Alors Inouï, Ouibus, Ouicar, on l'a tous vu, et bien sûr Ouigo, ces fameux TGV à bas prix. On peut expliquer un peu cette stratégie que je trouve symbolise un peu cette évolution de la SNCF?
Oui, c'est une stratégie marketing qu'on a vu aussi à la SNCF, qui a changé de nom, France Télécom, qui a changé de nom avec Orange. Il faut incarner le renouveau, il y a plusieurs raisons, il faut incarner le renouveau. Il faut aussi distinguer les différents services, puisque l'ouverture à la concurrence va se faire par lot, Donc par exemple, il faut que les services régionaux soient comme ça, plus faciles à distinguer pour les usagers. On peut faire, c'est l'idée. Mais surtout, il y a aussi l'idée de segmenter l'offre, c'est-à-dire que pour deux raisons, pour saturer le service, on le sait, hein, la SNCF a lancé Ouigo, l'offre à bas prix, pour deux raisons, pour saturer le marché, puisque bientôt des concurrents vont pouvoir venir faire circuler des trains et qu'il pourrait y avoir des trublions du marché qui viendraient casser les prix, donc il faut comme ça occuper le marché, mais il y a aussi un risque, l'idée était aussi, la deuxième raison, de faire venir des voyageurs qui ne prenaient pas le train pour des raisons financières, à qui on pouvait faire des offres promotionnelles, mais il y avait un risque, c'était que les gens qui prennent aujourd'hui le train se déportent sur ces offres-là, sur le Ouigo. Donc il fallait segmenter et proposer à chacun une offre sur mesure. Et de plus en plus, donc on va le voir, ça arrive petit à petit, on a des services commerciaux qui sont très différenciés. C'est pour ça qu'on a des noms différents, mais c'est aussi pour ça, par exemple, la business class qui est lancée, c'est avec des niveaux de service qui sont différents. C'est-à-dire que, par exemple, la flexibilité pour les pros est intégrée au prix du billet. C'est le billet est plus cher, mais on leur réserve comme ça des services de flexibilité sur les échanges en dernière minute. La carte week-end, qui est une réduction qui permet de cibler des gens qui ont moins de pouvoir d'achat pour du loisir, c'est eux qui payent leur billet. On va être obligé de dormir une nuit sur place. Comme ça, on va différencier les différents services.
Et par exemple, prenons Ouigo, c'est le symbole, ça marche très très bien. Question un peu bête de personne qui prend Ouigo régulièrement, je dois l'avouer. Comment arrive-t-on à proposer des voyages en TGV à moins de 20 euros jusqu'à 10 euros parfois? Ça semble assez fou, ça semble même dévaluer un peu le service. Comment on arrive à un prix si bas et sous quelles conditions?
C'est un marché de masse, c'est-à-dire qu'on est très nombreux à prendre Ouigo. Les taux de remplissage d'un Ouigo sont très élevés. Les coûts d'exploitation aussi sont réduits à la baisse. Il n'y a plus de voitures-bar, donc ça permet d'économiser, de faire rentrer plus de monde dans un Ouigo. La maintenance aussi est optimisée, c'est-à-dire qu'une rame Ouigo circule plus, j'ai plus les chiffres en tête, ils sont dans la BD.
Il n'y a pas de nettoyage entre deux voyages, on peut circuler environ 12 heures par jour, faire circuler 12 heures par jour un TGV avec Ouigo.
Oui, on retrouve tous les ingrédients du modèle low cost, comme dans l'aérien, où tous les coûts vont être comprimés pour essayer de réduire au maximum le coût. Mais quel est aussi le pendant de tout ça? C'est-à-dire que ce n'est possible que lorsqu'il y a masse, c'est-à-dire les lignes les plus rentables, Paris-Lyon, etc. Donc ça, ok, on peut à la limite donner ce crédit dans le débat sur l'ouverture à la concurrence à ses défenseurs, de dire sur les lignes les plus rentables, qui sont déjà congestionnées, on va avoir une bataille qui va amener des baisses de prix. On peut souligner que ça s'associe à une baisse de qualité de service.
Et là, on parle de Paris-Lyon, Paris-Nantes, des choses comme ça.
Exactement. Là, du coup, a priori, la fin de la réflexion, elle nous amène à dire que la concurrence, peut-être qu'elle n'aura pas lieu, parce que la SNCF a fait ce qu'il fallait depuis 10 ans pour s'aligner sur les normes qui auraient été celles d'un service avec de la concurrence. Mais par contre, le Ouigo ne va pas là où c'est pas rentable, là où il y a moins de monde, ne fait pas de la desserte fine du territoire, ne fait pas de service public. Et donc, on en revient à l'essence de cette question. Le train doit-il être un service public ou un marché organisé sur la simple base de la libre concurrence?
Alexandra de Bézieux, ce que fait pas Ouigo, c'est-à-dire Ouigo, ils vont desservir Paris-Lyon, etc., Paris-Nantes. Vous prétendez pouvoir le faire à terme? Pour l'instant, vous êtes placé sur des lignes Toulouse-Rennes, Lyon-Limoges, etc. Vous construisez une sorte de contre-modèle de train face à ça?
Oui, disons, on va là où, effectivement, on va pas sur du marché de masse et on va pas sur la grande vitesse. Donc, en effet, on va pas se positionner sur des radiales Paris-Province qui sont déjà, où le marché est déjà relativement bien occupé par différentes offres. Nous, on se positionne vraiment sur des dessertes de métropoles régionales. Donc, on a notifié effectivement à l'autorité de régulation des transports trois grandes lignes de voyageurs, donc la ligne Bordeaux-Lyon par le Massif central, donc effectivement, enfin par Limoges, Montluçon, voilà. On a notifié la ligne Toulouse-Rennes par Limoges et la ligne Lyon-Thionville par Dijon. Donc justement, on se positionne pas du tout sur la grande vitesse, on se positionne pas sur du marché de masse. On prend le pari, en fait, qu'en reconnectant les territoires intermédiaires, les villes moyennes, les territoires ruraux, en pensant un service en bonne intelligence avec le territoire, on peut refaire circuler des trains dans les territoires territoire et on peut être sur une structure de coût qui donne aussi accès au train aux personnes aussi les plus modestes. Sur la ligne Bordeaux-Lyon, dans notre business plan, on est sur un tarif de bout en bout de 38 euros de bout en bout, donc on s'aligne sur le coût du covoiturage. C'est comme ça en fait qu'on a construit notre plan d'affaires sur l'ensemble des lignes qu'on exploite. On est parti du coût du covoiturage et à partir de là, on a construit notre structure de coût en disant bah voilà ce qu'il nous faut en termes de volume de voyageurs, ce qu'il nous faut en termes d'utilisation, d'intensité d'utilisation justement du matériel ferroviaire, etc. Donc on a construit tout ça comme ça. C'est comme ça qu'on a pensé notre modèle économique. Et donc voilà, enfin, on est vraiment effectivement plutôt en complément. C'est pour ça, j'insiste bien là-dessus. C'est-à-dire qu'avec l'ouverture à la concurrence, il va y avoir donc d'un côté les délégations de services publics, donc le financement essentiellement par les régions ou par l'État sur certains tronçons.
Des régions qui vont mandater des entreprises pour assurer le service.
Voilà, c'est ça. Avec des moyens qui sont forcément limités. Enfin, je veux dire, les régions ou l'État ne peut pas forcément subventionner des services. Enfin, les moyens aujourd'hui des collectivités locales sont relativement limités. Donc, vous allez avoir des certes, mais bon, voilà. Donc il y a les délégations de services publics. De l'autre côté, il y a effectivement le service librement organisé, et c'est vrai qu'on constate que sur le service librement organisé, beaucoup d'opérateurs, les grands opérateurs, donc que ce soit la SNCF ou d'autres grands opérateurs étrangers qui se positionnent sur le marché français, vont plutôt se positionner sur des radiales Paris-Provence ou sur la grande vitesse, voilà, plutôt sur du marché de masse, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Et nous, effectivement, on vient dans cet intermédiaire, si je puis dire, où on se positionne pas sur du service subventionné, on va pas aller demander des subventions ni aux régions ni à l'État, mais on se positionne bien sur le service librement organisé, mais sur des territoires qui, effectivement, ne sont pas jugés où les lignes ne sont pas jugées assez rentables. Enfin, c'est pas qu'elles sont pas rentables, elles sont peut-être pas rentables pour des entreprises qui ont des structures de coûts importants ou avec des exigences de rentabilité qui sont importantes, mais voilà, elles sont pas peut-être pas assez rentables pour un certain nombre d'entreprises on va dire dites classiques, mais pour une société coopérative comme Railcoop, on est sur une rentabilité sur la ligne Bordeaux-Lyon, on a une rentabilité qui nous convient tout à fait, qui est suffisamment qui est satisfaisante. Et qui nous permet du coup d'opérer le service et d'en développer de nouveaux, d'envisager de nouveaux développements sur d'autres territoires.
On va prendre le temps de discuter de ces lignes qui, depuis des années, on nous dit qu'elles sont pas rentables et d'un coup, des entreprises privées s'y intéressent. On va prendre le temps de discuter ça, mais d'abord, je voulais passer à la deuxième partie de cet épisode de Penser les luttes dédié à la privatisation du rail. Et justement, cette concurrence qui s'annonce, elle est incarnée donc par Railcoop, bien sûr, mais surtout par plusieurs entreprises beaucoup plus massives, faut le dire, beaucoup plus grosses. On va les connaître un petit peu mieux.
C'est une très bonne nouvelle, la concurrence devient une réalité. Voilà ce que l'on disait hier chez Transdev. Retenez bien ce nom, il s'agira du principal concurrent de la SNCF sur le marché des TER. Nous sommes prêts, résume Thierry Mallet, PDG de Transdev.
Notre objectif, c'est de reprendre des lignes de TER existantes qui sont aujourd'hui exploitées par la SNCF et qui demain seront exploitées par Transdev. Mais ce seront des lignes qui vont continuer à garder d'abord les couleurs de la région et ça va se traduire dans la qualité de service, dans la fréquence et dans la ponctualité. C'est là que va se traduire la différence.
En Allemagne, Transdev est devenu le principal concurrent de la Deutsche Bahn, la compagnie allemande qui devrait également débarquer en France via sa filiale Arriva. Autre acteur dans les starting blocks Trenitalia qui lorgne sur les TGV. Et preuve que tout cela devient très concret, la région PACA a déjà lancé le processus qui permet les appels d'offres et identifié trois lignes, dont celle entre Marseille et Nice.
Pensez les luttes avec Radio Parleur.
Hey, on fait quoi aujourd'hui là? On joue au chat et à la souris avec la police ou on s'organise?
Voilà un extrait d'un reportage d'Adrien Fleureau diffusé sur Europe 1 dans le journal de 8h. C'était le 15 mars 2018, donc on est déjà 2 ans en arrière. Alexandra de Bézieux, on vient d'entendre plusieurs noms, Transdev, Arriva, Trenitalia. Tout d'abord, très simplement, est-ce que moi, en tant que voyageur, je vais devoir m'attendre à avoir des trains de compagnies différentes selon le quai que je prends, l'heure où je suis, la gare d'où je pars, d'ici très peu de temps?
Oui, hein, il va y avoir des compagnies différentes. Après tout, l'enjeu, ça va être aussi pour ces compagnies d'être capables de s'entendre pour offrir aux aux voyageurs une continuité de service. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un enjeu de pouvoir... alors, bon, il y a des règlements européens hein, sur la question, mais néanmoins, bien évidemment, il s'agit d'être capable de travailler en bonne intelligence. Mais oui, bien évidemment, il y aura différentes entreprises ferroviaires et donc différentes compagnies qui opéreront des services. Oui.
Erwan Manac, cette idée de travailler en bonne intelligence entre entreprises privées, vous le soulevez dans la BD. Il y a notamment une discussion de l'utilisation des rails, tout simplement, car on peut mettre qu'un train à la fois au même moment sur un rail. Quelle inquiétude ça provoque ?
Oui, on est allé chercher des cheminots qui ont ces inquiétudes, qui disent que le ferroviaire, c'est pas tout à fait une économie, une industrie comme les autres, un réseau comme les autres. C'est-à-dire qu'on est obligé de se partager les rails, à la différence de l'avion, par exemple, ou des télécommunications, où il suffit de mettre une antenne. Et donc, il va falloir se partager les rails. Et d'avoir une entreprise unique, ça permet d'optimiser le trafic. Et donc, ils craignent que ce qu'on a vu, par exemple, en Angleterre, que tout ça, qu'il y ait une désoptimisation qui se crée. On a vu aussi en Allemagne que faire fonctionner tout ça en musique demande des efforts considérables aux acteurs et donc finalement est-ce que c'est pas une énergie supplémentaire par rapport à un modèle où tout est intégré quoi.
Alors il y a une entreprise qui est un peu symbole de ce que pourrait devenir alors à l'extrême l'exploitation des trains en France, c'est Flixtrain. Alors on a déjà en fait sa version en France, c'est sa version car qui s'appelle Flixbus. Alors elle est symbolique car par exemple dans les cars, elle n'embauche pas de chauffeur, elle possède pas de car, elle les loue et elle a recours à des prestataires, elle loue des véhicules. Ça ressemble beaucoup à Uber par exemple, l'entreprise de chauffeurs. Est-ce que ce sera pareil avec le train Erwan Manac, qu'on peut avoir ça ?
Mais alors ce qui est intéressant, c'est que bon, Flixtrain était pressenti, mais que pour l'instant a priori il va pas s'engager dans cette bataille. Il a fait ses calculs, les prix des sillons sont trop élevés et pour l'instant il a dit à ces conditions-là, nous on vient pas.
Les sillons, on peut expliquer en deux mots ?
Les sillons, en gros, c'est un droit de passage. Je souhaite aller de tel endroit à telle heure. On vous réserve un créneau. Et c'est ça que la SNCF Réseau, qui se charge d'entretenir les rails, vend aux opérateurs qui font circuler des trains. Et il y a une autre chose à souligner sur les différents acteurs, c'est qu'en fait, tout ce qu'on a entendu, RATP Dev, Trenitalia, etc.
Oui, Arriva qui appartient à la Deutsche Bahn.
Tout ça, en fait, c'est des filiales de droit privé de groupes publics. Soit d'opérateurs ferroviaires de chez nos voisins, donc on aura la RENF qui va envoyer une filiale de droit privé,
donc ça c'est espagnol,
Trenitalia, les Italiens qui vont faire venir Telo, c'est déjà le cas hein, d'ailleurs sur les trains jusqu'à Milan, de Paris à Milan.
Voilà, Paris-Venise de nuit aussi, etc.
Et puis le plus gros concurrent européen c'est la SNCF hein, qui est en train de tisser sa toile sur la planète. Voilà le modèle en fait d'ouverture à la concurrence, c'est surtout des groupes, il faut avoir les reins solides pour aller sur ce marché là, c'est ce qui explique que c'est beaucoup des groupes publics, et Flixtrain, qui était un petit peu, bon, à part Rycop, pour bien d'autres raisons que vous avez bien expliquées, qui était un petit peu l'anomalie dans tout ça, est en train de dire que ça n'intéresse plus finalement.
Alexandra de Bézieux, comment vous vivez ça, d'être seule face à une multitude de géants issus en fait d'entreprises publiques et au final d'État ?
Alors en fait, on n'a pas l'impression, enfin, Rycop est peut-être effectivement, comme vous le disiez, Erwan, une anomalie et on est content de ça parce que je pense qu'on apporte quelque chose aussi dans la réflexion. Enfin, on pourra revenir sur cette notion aussi de délégation de services publics et la prise de parole de Thierry Mallet tout à l'heure dans l'extrait que vous avez cité. Mais en fait, alors, on est seul et en même temps, on est seul comme entité, mais on est un formidable collectif. Et c'est ça la force de Rycop. C'est que aujourd'hui, on est plus de 2000 sociétaires. Alors, c'est certainement encore pas assez. Mais tous les jours, on a des nouveaux sociétaires qui rejoignent l'aventure. Et l'idée, c'est vraiment ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que on se ressaisit de la question du ferroviaire en tant que citoyen, en tant que territoire, etc. On se dit, bah oui, on peut aussi, nous ressaisir de cette question-là. Alors, on peut regretter que, quelque part, le service public, la SNCF, ne l'ait pas fait. Voilà. Aujourd'hui, on se dit, bon, là, on a une opportunité de le faire. Le modèle coopératif le permet d'associer les collectivités locales et les acteurs des territoires. Et donc, voilà. Donc, en fait, quelque part, on est seul et en même temps, on sent une tellement grande énergie et une attente parce que le train, en fait, c'est tout le monde en rêve du train. Enfin, on a tous des histoires de train. On a tous aimé prendre le train, que ce soit les trains de nuit ou on a tous des histoires, effectivement. Et on se rend compte qu'en fait, que ça renvoie à une vraie histoire collective et qu'il y a un vrai amour pour le train, en fait, en France. Et on se rend compte, effectivement, de cet engouement. Donc oui, on est encore un tout petit pousset du ferroviaire. On est face à des très gros, vous avez raison de le souligner, à des entreprises qui sont détenues, notamment par des capitaux publics, vous avez raison de le souligner, sur un secteur qui est très capitalistique, mais aujourd'hui, on sent en tout cas une montée en puissance très rapide du capital social avec un engagement très fort d'une diversité d'acteurs dans les territoires qui vont être desservis en 2022 ou qui seront desservis en 2023, 2024, etc. Donc, on sent quand même un véritable engouement. Alors après, ceci étant dit, c'est vrai que y a un certain nombre d'obstacles qui restent à lever. On nous demande un certain nombre de garanties, par exemple sur le matériel ferroviaire. Mais ça va être possible aussi parce qu'on va réussir à démontrer que on peut se mobiliser autour du renouveau du ferroviaire et voilà. Et c'est la force du collectif. Enfin, je tiens à le dire. Je pense que c'est vraiment ça la force de Railcoop aujourd'hui face à des très gros. Vous avez raison de le souligner.
Voilà. Je précise, Erwan Manac veut réagir. Je précise d'abord aujourd'hui, Railcoop, c'est 600 000 euros de capitalisation. L'objectif, c'est d'atteindre 1,5 million pour pouvoir ensuite faire rouler des trains de voyageurs. Erwan Manac, vous voulez réagir?
Oui, enfin, l'histoire de Railcoop, c'est vrai que ça suscite beaucoup d'espoir. En tout cas, j'ai pu le mesurer chez les cheminots. Et aussi certaines interrogations, c'est-à-dire que pour ce qui est des espoirs, je trouve que Railcoop répond en partie, en tout cas souhaite répondre en partie à une question qui est traversante dans notre société aujourd'hui, qui est de dire comment faire. Bon, ça fait 30 ans qu'on a vu le marché se transformer, les privatisations qui ont pris tous les biens communs en fait et qui sont attaquées à beaucoup de services publics. La question est comment faire après le marché, comment faire refleurir des friches qui ont été laissées par les trous noirs du marché, là où le marché n'a pas répondu. Et on a conscience qu'à la fois les renationalisations ou un modèle vraiment frontalement coopératif serait pénalisé et qu'il faut inventer une troisième voie, et donc c'est ce que certains appellent les communs, vraiment les acteurs, les citoyens sont présents dans l'activité économique. On va gérer ça comme un bien commun, et je pense que le train, on finit là-dessus, est un bien commun. Après, il y a évidemment des interrogations. Est-ce que les coopératives peuvent survivre dans l'environnement qui sera celui du ferroviaire, qui peut être hostile à une coopérative? Est-ce que l'équation économique est possible de réussir à faire rouler des trains neufs, une qualité de service, vous le disiez, avec des tarifs abordables pour tout le monde, un véritable service public, avec l'impératif coopératif que vous fixez au cœur de votre projet, dans cet environnement? Moi, c'est la grosse interrogation, en plus avec donc des deniers publics qui viennent à manquer, puisque pour l'instant, a priori, l'austérité reste la règle dans le train, pour le train.
Alexandra Debézeux, il y a une autre chose que vous vous imposez, c'est le traitement de vos salariés. Vous promettez notamment la garantie de conditions de travail dignes. Ça doit faire rêver des cheminots et des cheminotes qui voient leur statut remis en cause, et de plus en plus, on voit la SNCF évoluer vers plus de précarisation, vers des contrats courts, etc. D'abord, comment vous ferez pour maintenir? Est-ce qu'on va avoir des cheminots et des cheminotes de Railcoop?
Alors déjà, peut-être ce qu'il y a à préciser, c'est que dans nos statuts, donc à la fondation de Railcoop, dans nos statuts, on s'est mis en conformité avec les critères ESUS, donc entreprise solidaire d'utilité sociale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire notamment que on a des enjeux donc d'égalité de traitement entre les hommes et les femmes, de non-discrimination, et également on a plafonné les rémunérations au sein de la coopérative. Donc on est sur une échelle de rémunération qui ne peut pas excéder un ratio de 1 à 7. Voilà. Donc ça, c'est statutaire. On sera sur ces échelles de salaire là au sein de Railcoop.
Ça veut dire entre la personne qui gagne le moins et la personne qui gagne le plus chez Railcoop, il y a x7 maximum.
C'est ça. Alors c'est sur les trois plus au salaire, c'est x7, voilà. Donc on est sur ce ratio là. Donc ça, c'est statutaire, voilà. Donc on peut pas. Donc si les dirigeants veulent gagner très très bien leur vie, bah, tant mieux pour eux. Ça mécaniquement, toute l'échelle des salaires va augmenter de manière mécanique. Donc voilà. Donc ça c'est déjà un des éléments de base qui est posé dans les statuts de Railcoop. Voilà. Ensuite, deuxième chose, le principe coopératif fait que les cheminots demain sont, enfin, en tant que salariés de Railcoop, auront la possibilité d'être sociétaires de Railcoop, bien évidemment s'ils le souhaitent, et ont un poids équivalent aux autres collèges de sociétaires dans la gouvernance, c'est-à-dire qu'ils ont 20% des voix en assemblée générale, au même titre que les autres collèges de sociétaires. Donc on a 5 collèges dans la coopérative, les collectivités locales, les bénéficiaires personnes physiques, donc ce sont les citoyens, les gens qui veulent voilà, revenir, voir revenir des trains. On a deux collèges personnes morales. Voilà. Donc, les salariés sont vraiment partie prenante de la gouvernance et donc de la définition du cadre social qui demain sera le cadre social de Rycop. Aujourd'hui, on est au début de l'aventure, pour être tout à fait clair. Donc aujourd'hui, les choses sont en train de se construire. Donc on est voilà, on est en train de construire ce cadre social. Donc voilà, on construit une entreprise ferroviaire. On est au début. Donc on a aussi cette opportunité de d'inventer des choses, d'aller peut-être sur effectivement sur un cadre social qui soit le mieux disant possible, etc. Voilà. Donc, mais en tout cas, les cheminots ont toute leur place pour définir ça. C'est leur entreprise. Enfin, c'est ça le principe de l'entreprise coopérative. Hein, c'est bien évidemment l'entreprise des cheminots aussi. Ouais.
Erwan Manak, les cheminots, cheminotes sont souvent présentés comme un poids des fois pour le modèle économique de la SNCF. Les choses sont en fait plus compliquées que ça. Est-ce qu'on peut mener une entreprise ferroviaire avec ce statut-là des cheminots? Est-ce qu'il pèse vraiment énormément par rapport à un statut plus classique, CDI, etc., qu'on connaît pour d'autres métiers?
Alors sur le coût pour la SNCF du statut, la transparence n'a pas été faite. C'est-à-dire qu'il y a le chiffre que le rapport Spinetta avance, c'est 30% de plus. 30% par rapport à quoi ? Voilà, rapport qui a été un petit peu téléguidé par le gouvernement pour préparer la réforme de 2018, celle qui aujourd'hui aboutit. 30% par rapport à quoi ? Étant donné qu'on est dans un service en France où pour l'instant il n'y a pas de concurrent. Enfin, a priori, ils ont pris le fret. D'autres disent que ce serait plutôt 8% dû au statut. Enfin bref, le débat, le moindre des choses qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas très bien éclairé. Nous, on a essayé de regarder. Alors effectivement, on ne va pas nier, il y a des avantages liés au statut de cheminot qui sont clairs, mais comme dans d'autres professions. Et on a compris déjà que ces avantages-là étaient liés à une nécessité de fidéliser une certaine main-d'œuvre qualifiée. C'est des métiers qui sont compliqués, le ferroviaire. Il faut la garder. Avec des impératifs de production, il faut être le matin tôt, le soir très tard, partout sur le territoire. Donc il faut que les fidéliser, ces cheminots. Et c'est pour ces raisons-là que, historiquement, le statut a été créé il y a très longtemps, après la Première Guerre mondiale. Par ailleurs, le débat est un petit peu injuste, parce qu'il y a aussi beaucoup de contreparties, ce que je disais à l'instant. C'est-à-dire que, par exemple, on sait peu que les cheminots ont deux ans de période d'essai, qu'il y a une mobilité continuelle, et que là, on le voit actuellement, dans les réorganisations, tout ça peut être mené sans qu'ils aient possibilité de refuser certaines réorganisations. Ouais.
Alors, autre question au-delà des cheminots, on en a un peu parlé tout à l'heure, celle des petites lignes. Chez Rycop, on l'a dit, vous êtes positionné sur ces trois lignes, donc Lyon-Bordeaux, Lyon-Limoges, Toulouse-Rennes, à peu près, je résume. Des trajets qui ne sont pas desservis par le TGV, on en a parlé. On entendait le patron de Transdev tout à l'heure qui assurait lui vouloir reprendre des lignes régionales pour le compte de région, délégation de services publics. Alors, ça fait des années qu'on nous dit que ces lignes TER sont déficitaires, que c'est un poids pour la SNCF, qu'elle est même bien courageuse de les maintenir, ces lignes. Et d'un coup, on a des entreprises privées qui ont l'air d'avoir très envie, elles, de reprendre ces lignes. Qu'est-ce qui a changé, Alexandra de Bézieux, pour que ces lignes aient l'air si rentables d'un coup, alors qu'avant, elles étaient présentées comme un poids ?
Non, elles sont pas plus rentables, si ce n'est qu'elles sont subventionnées, en fait. Et donc là, un opérateur comme Transdev va répondre à des délégations de services publics. Donc ce sont des lignes qui aujourd'hui sont considérées comme déficitaires, et du coup on vient chercher le public pour l'acteur public pour finalement financer un service et financer des opérateurs donc privés dans le cadre d'une délégation de services publics. Voilà, pour opérer des lignes, mais il n'y a pas de voilà, ça n'a pas changé, si vous voulez. Et c'est là, pour nous, chez Rycop, alors ça c'est pas... Enfin, je vous livre une réflexion qu'on a là en interne, mais pour nous, c'est là où il y a un souci sur cette question des délégations de services publics, c'est-à-dire que finalement, on va resanctuariser, on va recréer des espèces de monopoles locaux au niveau de certaines sections du réseau, à travers ces lignes-là, alors que, d'après nous, la puissance publique devrait plutôt être là pour animer, on va dire, une saine émulation entre entreprises ferroviaires. C'est-à-dire que, encore une fois, je reviens sur ce principe, c'est-à-dire que plus vous avez de trains qui circulent sur une ligne, et plus les gens vont prendre le train.
Alexandra de Bézieux, quand vous dites saine émulation entre entreprises ferroviaires, est-ce qu'on peut expliquer ce que ça voudrait dire concrètement ?
Par exemple, je vais vous donner un exemple tout simple. Aujourd'hui, donc nous, on va opérer le train entre Bordeaux et Lyon, et forcément, en fait, la ligne, elle est aujourd'hui, il y a déjà des trains qui circulent sur ces lignes-là, il y a déjà des TER. Donc, par exemple, il y a des trains qui vont entre Bordeaux et Limoges, puisqu'on citait ça tout à l'heure. Voilà. Donc, nous, notre train qui va aller de Bordeaux à Lyon, il va aussi faire un Bordeaux-Limoges. Mais bien évidemment que le train Railcoop va venir compléter. L'idée, c'est pas qu'ils partent de Bordeaux 2 minutes après le TER de la région, c'est qu'ils partent à un horaire qui soit en bonne coordination avec les autres services de la région pour venir compléter le service, pour que finalement, pour les gens qui habitent à Bordeaux, qui aimeraient aller à Limoges ou inversement, qui aient une complémentarité du service et que du coup, voilà, tout ça vient nourrir globalement la qualité de ça, enfin, le service ferroviaire qui est proposé. Donc, si vous voulez, la réflexion aujourd'hui, c'est de se dire plutôt, enfin, la vision qu'on a, c'est de se dire plutôt que d'être dans une logique où l'acteur public se dit « Ah mince, là, en gros, il y a un déficit sur la ligne, le marché n'ira pas, donc on subventionne une entreprise, on donne de l'argent à une entreprise pour aller proposer un service qui sera ce qui sera, mais qui sera forcément limité puisque les moyens sont pas extensibles à l'infini. » On se dit que ce serait sans doute un peu plus intéressant de réfléchir différemment, c'est-à-dire que l'acteur public sur certains territoires incite plutôt à la pluralité des offres et à la pluralité des acteurs, peut-être en subventionnant le passager et pas l'entreprise. C'est-à-dire que voilà, enfin, il y a des réflexions qui nous semblent devoir être menées, qui sont un peu différentes du modèle actuel, en tout cas sur les délégations de services publics. Bon, alors pour être tout à fait clair, nous Railcoop, on n'ira pas du tout sur les délégations de services publics, c'est pas du tout notre modèle. Mais voilà, enfin, nous la réflexion qu'on a, c'est que pour remettre du ferroviaire et du train où c'est possible, il faut innover, il faut réfléchir à de nouveaux modèles, il faut décloisonner et l'acteur public a toute sa place là-dedans, mais plutôt pour essayer de travailler encore une fois en bonne intelligence avec tout le monde. Voilà. Et ce principe-là de subventionner finalement une entreprise dans une concurrence où on est là avec le gâteau et on se partage le gâteau, il y a pour nous quelque chose qui va pas. C'est-à-dire que le gâteau, il faut plutôt essayer de faire grossir le gâteau du ferroviaire, la part du modal du ferroviaire dans la mobilité globale, plutôt que de se dire, bon, on a un gâteau et on se le partage, quoi. Ça n'a pas beaucoup de sens.
Erwan Manac, sur les réflexions d'Alexandra de Bézieux et aussi sur ces petites lignes, quelle réaction?
Ce qu'il faut comprendre sur les, on va passer des appels d'offres sur les lignes régionales. C'est-à-dire, par exemple, en région Hauts-de-France, il y a 3 lignes. TER, on dit, et on va passer 3 appels d'offres. Ils sont passés. Donc c'est pas la concurrence qui va faire rouler des trains ou qui fera rouler demain plus de trains si jamais plus de trains circulent. C'est l'argent public. Simplement comme pour les ordures ou l'eau, on va choisir une entreprise privée plutôt que publique. Et d'où moi, nous la réflexion, un peu l'idée qu'on développe, que bon, c'est, on a interrogé des cheminots, hein, qui nous ont fait part de cette réflexion. Tout ça est un petit peu organisé. C'est-à-dire qu'on voit aussi dans les appels d'offres, la SNCF, là, n'aura pas le droit de candidater en tant qu'SNCF. Il faudra qu'elle envoie une de ses filiales de droit privé. Et donc, on pousse un modèle privé, modèle social privé, qui, on le voit à la SNCF depuis 10 ans, c'est ce sur quoi on commence notre récit par des témoignages, qui comprime les conditions de travail, incite les cheminots à de plus en plus de gains de productivité qui, on voit sur l'aspect humain, est un désastre. Et je pense qu'il y a une dimension quand même politique. Je ne vais absolument pas paraître complotiste, mais la SNCF, les cheminots sont un moteur des luttes sociales en France. Et à chaque fois qu'il y a eu des grands projets de réforme, prenons seulement les retraites en 1995 et puis encore cette année, ils ont été à l'avant des manifs. Je pense qu'il y a un petit peu cette dimension quand même là dans les esprits.
D'affaiblir ce bastion social.
Voilà, de pousser un modèle privé dans lequel on sait très bien les droits syndicaux sont pas équivalents à ceux du public. Donc si demain, prenons les Hauts-de-France, le Sudrail estime que c'est 1 millier de cheminots qui, avec ses appels d'offres, vont basculer de la SNCF à la filiale de droit privé que va créer la SNCF, on a 1 millier de cheminots qui vont perdre la protection syndicale que leur offre la SNCF, où il y avait un taux de syndicalisation 2 fois plus élevé que dans une entreprise privée. Et ça, on ne peut pas s'empêcher de penser que ce n'est pas totalement innocent.
On va passer à la dernière partie de ce Penser les luttes consacré au train. Erwan Manac, pour être honnête, on sort quand même un peu dépité à la lecture de votre passionnante enquête BD. Et on a des fois du mal à voir comment nous, les simples usagers, je ne sais pas si on le dit, nous pouvons agir pour garantir une qualité de service, une offre ferroviaire qui soit aussi en accord avec nos valeurs, avec ce qu'on défend. C'est pour ça qu'on a invité notamment Alexandra de Bézieux, qui porte cette alternative Railcoop. C'était intéressant d'avoir une proposition d'alternative. Alors, comment agir? Un court exemple de ce qui est possible de faire, on en discute juste après ça. On écoute ce petit son.
On a rarement vu un tel accueil pour un train. Mais aujourd'hui, sur les quais de la gare de Genolac, les Sévenols font la fête au nouveau Sévenol. Le train mythique qui relie Nîmes à Clermont a fait peau neuve et personne dans la vallée ne voulait rater son premier passage. Après des années d'incertitude, le Cévenol est sauvé. Une victoire de la mobilisation citoyenne locale, saluée par tous, et d'abord par les cheminots.
Je pratique souvent la ligne, et ça fait toujours plaisir. Ils ont défendu la ligne, ils continuent à la défendre, et heureusement, il y a du nouveau matériel pour continuer.
La ligne Nîmes-Clermont a bien failli disparaître. La SNCF n'en voulait plus à l'heure du tout TGV. Avec ses 100 000 voyageurs annuels et ses 3 000 ouvrages d'art, elle n'était plus rentable. Mais les régions Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes ont mis la main au portefeuille pour sauver un service public essentiel à la vie de ces territoires desservis.
Pensez les luttes, votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur. Pour penser ensemble les mouvements sociaux.
Voilà, le train Cévenol qui relie Nîmes à Clermont-Ferrand, accueilli par les habitantes et habitants qui se sont battus pendant des années pour le garder. Alors face au désengagement de la SNCF, on l'a entendu, c'est finalement les régions Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes qui ont financé la relance de la ligne. On est typiquement sur ces petites lignes qui transportent moins de 100 000 personnes par an, mais qui sont vitales pour la vie d'une région. Alexandra de Boisieux, c'est ces types de lignes que vous souhaitez maintenir via RAILCOP, c'est celles-là que vous visez particulièrement, aussi dans un but d'utilité sociale ?
Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors après, effectivement, je tiens quand même à le dire, c'est-à-dire qu'on est une société anonyme sous forme coopérative, mais il faudra qu'on trouve un modèle de rentabilité aussi sur ces lignes. Donc,
il faut faire des bénéfices.
Oui, il faut faire des bénéfices parce que c'est la pérennité du modèle coopératif. Alors comme je vous le disais, par contre, effectivement, les bénéfices, c'est là aussi la force de la coopérative. Encore une fois, c'est que, par exemple, sur les grandes lignes, typiquement Bordeaux-Lyon, Toulouse-Rennes, on a un équilibre économique, on dégage de la valeur, et cette valeur va pouvoir être réinjecté pour des expérimentations sur des territoires ruraux. C'est exactement ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. On a le syndicat ferroviaire du Livradois-Forez qui nous a rejoint, qui est sociétaire de RAILCOP, donc qui est un groupement de collectivités qui est propriétaire de son infrastructure ferroviaire. C'est une infrastructure ferroviaire, enfin c'est un territoire qui est très rural. Aujourd'hui, sur cette infrastructure ferroviaire circule un train touristique et un petit peu de fret, mais c'est assez marginal. Et l'enjeu pour eux, c'est de développer la mobilité du quotidien sur cette infrastructure ferroviaire pour les habitants du territoire. Et donc, en fait, ils ont rejoint RAILCOP en se disant, avec RAILCOP, voilà, déjà, on devient copropriétaire d'un opérateur ferroviaire. On va pouvoir, du coup, bénéficier de tout ce qui est certificat de sécurité, licence, etc. Tout ce qu'il faut pour aussi faire rouler des trains. Alors, eux, ils sont propriétaires de l'infrastructure ferroviaire, mais l'enjeu aussi, c'est de connecter cette infrastructure qui est privée, on va dire, avec le réseau national. Donc, il faut forcément avoir une licence d'opérateur et un certificat de sécurité. Mais aussi de réfléchir à ce qui peut être développé là. Et nous, demain, voilà, les marches qui vont être dégagées sur du Bordeaux-Lyon, par exemple, pourront tout à fait servir à expérimenter un certain nombre de dessertes locales, de réfléchir à voilà, c'est ces expérimentations territoriales qu'on va pouvoir lancer avec comme objectif, bien évidemment, de trouver le modèle qui va bien pour que ces expérimentations soient pérennes. Nous, notre idée, j'insiste là-dessus, ce n'est pas de vivre de la subvention publique, c'est de trouver le modèle économique. Alors oui, l'acteur public a son rôle, parce que l'acteur public peut devenir sociétaire de RAILCOP, il est animateur de son territoire, il connaît les forces et les synergies et les besoins de son territoire, donc c'est pour ça que l'acteur public a toute sa place dans la coopérative. Mais notre modèle n'est pas de vivre de subventions publiques, notre modèle est de trouver et d'inventer avec les acteurs des modèles qui permettent une pérennité et un équilibre économique sur la desserte fine des territoires.
Erwan, voilà. Manac, on vient d'entendre la mobilisation dans les Cévennes avec la joie de revoir un train. Ça montre l'attachement des gens à leur train. Elle se retrouve dans de nombreuses régions de France. Je pense par exemple au collectif de l'Étoile de Veynes qui se bat pour la sauvegarde de la ligne Gap-Grenoble, que vous connaissez bien, à des mobilisations contre des fermetures de gare dans la Drôme, à Die ou encore dans les Hauts-de-France. Est-ce que ces mobilisations citoyennes, elles peuvent peser d'abord et peser pour éviter des fermetures, en tout cas peser sur la trajectoire actuelle du rail?
Oui, je pense. Elles ont montré qu'elles pesaient. Hein. Le Grenoble Gap a été sauvé. On peut même prendre l'exemple du Perpignan-Rungis qui, du coup, est devenu un sujet politique.
Un train de fret, là, on parle, hein, qui desservait Rungis avec plus de 1400 tonnes de légumes et de produits chaque jour et qui, finalement, aujourd'hui, n'est a été relancé après une interruption qui lui a un peu coupé les pattes.
Doit être relancé. En tout cas, c'est un sujet sur lequel les politiques ont été obligés un peu de répondre. Mais on peut regretter que Perpignan-Rungis, c'est tout un programme. Rien que le nom, on a déjà le programme. C'est pareil, Grenoble-Gap, on voit cette ligne qui est sublime. Et puis, c'est des territoires qui ont fort caractère, qui savent défendre leur équilibre. Malheureusement, les autres, un peu plus silencieuses, celles qui vont être moins médiatisées, qui auront moins réussi à structurer les lignes, c'est un peu dans le silence qu'elles vont fermer. Ce qui est préparé là, comme plan pour les petites lignes, c'est de dire l'État en reprend une partie, parce qu'il y a une facture que pour l'entretien des voies, parce que faire circuler les trains, c'est une chose. Encore faut-il que les rails, c'est-à-dire l'opérateur qui entretient les rails, puissent les entretenir. Et ça, alors il n'y a qu'une seule solution, c'est l'argent public. C'est-à-dire qu'en Angleterre, ils ont essayé le modèle privé, ça a donné des catastrophes ferroviaires avec des milliers de morts, enfin des centaines de morts. Et donc, on en revient à l'alpha et l'oméga, qui est l'argent public. C'est BCG Consulting qui le dit, on a retrouvé cette citation. Le cabinet de consulting de penseurs du néolibéralisme qui dit « concurrence ou pas, la performance d'un réseau ferré et dépendant du niveau d'investissement public. » Et donc on en revient, à mon avis, à ces résistances locales. Et moi, à mon avis, si au rayon des solutions, bon, il y a les résistances locales, mais aussi de faire du ferroviaire vraiment un sujet politique avec, c'est triste à dire, l'alpha et l'oméga, c'est l'argent public. Va-t-on mettre suffisamment d'argent public pour que le réseau soit suffisamment entretenu, le retard de maintenance soit rattrapé et qu'il puisse y avoir des trains qui circulent partout?
Et justement, c'est peut-être en partie une victoire de mobilisation citoyenne. Le gouvernement s'exprime quasiment depuis l'élection d'Emmanuel Macron sur le fait de vouloir relancer le train. Ils le disent souvent, dès qu'on parle d'écologie à peu près, ils parlent de relancer le train. On entend régulièrement le secrétaire d'État au transport Jean-Baptiste Djebbari s'exprimer sur le retour des trains de nuit, promettre de rouvrir des petites lignes. Erwan Manak, sur le terrain, on en est où entre les mots de Jean-Baptiste Djebbari qui multiplie le fait qu'il va relancer le train à grande vitesse pour rigoler, et c'est la réalité?
Bon, déjà, il faut noter qu'il y a beaucoup d'argent qui est mis dans le ferroviaire ces dernières années, que une partie de la dette a été en partie reprise. Il y a des jeux d'écriture.
Encore plusieurs milliards dans le dernier plan de relance annoncé, par
exemple. Voilà, 4,7 milliards. Mais malheureusement, il y a énormément de retard qui a été pris sur l'entretien du réseau. Le réseau a beaucoup vieilli. Le TGV a été financé à crédit. Donc tout ça, on paye un passif. Et pour ce qui est du plan de relance, il faudrait plutôt le qualifier de plan de sauvetage, parce que ça éponge les pertes de la SNCF cette année à cause du Covid. Donc c'est pas rien. C'est des investissements qui sont énormes, mais en fait, il faudra plus. Il faudra plus pour sauver le rail français d'une logique déflationniste, c'est-à-dire que il y aura toujours des trains. Et sur le Lyon-Paris, ce sera superbe. Il y en aura plein, ils seront pleins, les tarifs seront préférentiels, etc. Mais la logique déflationniste va amener petit à petit la suite de ce qu'on voit sous nos yeux, c'est-à-dire le rétrécissement du réseau, les lignes les moins fréquentées qui seront petit à petit fermées, et on se concentrera sur les plus gros axes, quoi.
Alexandra Debézieux, vous vouliez réagir là-dessus, et je voulais aussi un peu votre avis sur l'action du gouvernement et ces différences entre les annonces régulières de relance du train et ce qui se passe sur le terrain.
Oui, je voulais réagir effectivement sur la question de l'argent public. Effectivement, c'est essentiel que l'argent public soit là pour la qualité du réseau. Alors ça, je suis 100% d'accord là-dessus. Je pense qu'effectivement, c'est le réseau doit être géré de manière centralisée, de manière en fait, il faut qu'il y ait une continuité, une unité du réseau, une unicité, je sais pas si c'est le bon terme, mais voilà, il faut en tout cas que cette question du réseau soit pilotée avec le sens du service public, et donc ça je suis complètement d'accord. Après, sur le plan de sauvegarde, enfin le plan de relance plus exactement, on a l'impression effectivement qu'il y a beaucoup d'argent. Alors c'est bien, hein, on va pas cracher dans la soupe, pas du tout, mais quand on regarde par rapport à ce qui a été fait il y a quelques années sur le plan de sauvegarde autoroutier, ce qui avait été mis en place, on n'est pas exactement sur les mêmes grandeurs, c'est-à-dire que faudrait que je retrouve les chiffres, mais de mémoire effectivement il y avait beaucoup plus d'argent qui a été mis au regard du kilomètre d'autoroute qu'au regard du kilomètre de voie ferrée, quoi. Donc voilà, je tenais quand même à le dire aussi, parce que c'est important, je pense, de mettre ça en perspective, alors que, et je suis assez d'accord, je pense que le train, le rail, c'est quelque chose qui relève du commun, des communs, et qui nécessite effectivement un investissement public fort, en tout cas sur l'infrastructure.
Ouais. Erwan Manak, Alexandra Debézu, on arrive presque à la fin de cette émission. Je voulais terminer sur un enjeu essentiel que pose le maintien du rail en France, c'est la dimension écologique. On a parlé là du fait de peser politiquement. Est-ce que l'avenir du train, elle peut devenir un enjeu politique plus large, notamment à travers l'impératif écologique et peser peut-être sur des décisions futures, voire des élections à venir, je pense à 2022 bien sûr, mais à d'autres. Erwan Manak pour commencer.
Il le faut, enfin il le faudrait. C'est évident, on voit par exemple le débat sur le fret, qu'il faut que les gens s'emparent de ces questions-là, qui sont en fait pas si complexes que ça. Enfin, moi, souvent j'ai l'habitude de résumer, c'est plus un débat à mon avis confisqué que compliqué. Alors évidemment, il y a des logiques économiques qu'il faut un peu comprendre, mais c'est plus que jamais un débat politique qu'il faut mettre au cœur de sur, qu'il faut mettre sur la table. Et on l'espère dans les prochains mois que les différents partis vont en faire un sujet de débat et de proposition. Parce que écologiquement, c'est un levier formidable. Et quand on voit le fret, on n'a pas parlé du fret, mais l'état du fret et les raisons pour lesquelles il est dans cet état.
Donc le transport de marchandises.
Et les raisons pour lesquelles il est dans cet état, c'est une tragédie.
Et vous en parlez d'ailleurs dans la BD, faut pas hésiter à la lire. Alexandra Debézu, pour finir, sur un peu la même question et aussi sur votre rôle là-dedans, parce que forcément, quelque part, vous êtes aussi une forme de lobby puisque vous défendez un train différent. Quelle importance ça a pour vous, cette dimension écologique et l'importance de le porter politiquement?
La dimension écologique, elle est vraiment dans l'ADN de RAECOP. Hein. C'est comme ça qu'est né, je vous disais, un peu le projet RAECOP. Donc oui, ça nous semble essentiel. Quand on pense transition, on doit penser train. Et voilà, donc c'est vraiment, ça nous semble essentiel. Oui, après, une forme de lobby, oui. Enfin, c'est vrai que c'est le message qu'on...
C'est un gros mot. Mais...
Non. Enfin, moi, je ne trouve pas que ce soit un gros mot, en fait. Je trouve que voilà, il y a des lobbies dans tous les domaines. Et voilà, donc nous, on pense ce message-là. On porte le message de la transition par le train, notamment. On porte aussi un message, je pense, assez fort au sein de RAECOP, qui est un modèle... alors, on n'est pas les premiers à le faire, mais c'est vrai, comme je le disais tout à l'heure, sur un secteur hautement capitalistique qui est le ferroviaire, de montrer, et ça va être, c'est un challenge, encore une fois, on est au début d'une aventure, on est au début d'une formidable aventure collective, donc on va voir si l'histoire nous donne raison ou pas, mais on pense qu'effectivement un modèle différent est possible, un modèle économique, un modèle de société on peut penser les choses différemment, voilà, pas simplement sous le regard de la main invisible du marché et de la concurrence libre et non faussée qui réglerait toutes les solutions possibles et avec la maximisation du profit. Enfin voilà, je suis un peu caricaturale en disant ça, mais c'est vrai que c'est aussi ça qu'on porte au sein de RAECOP, c'est un modèle économique un peu différent pour penser en fait les transitions de manière générale.
Et ben on va suivre ça avec Radio Parleur. On l'a pas dit d'ailleurs, premier train de voyageurs, c'est pour quand si tout va bien?
2022.
Donc mi-2022, si tout va bien, premier train de voyageurs. On espère qu'on pourra suivre ça en reportage sur Radio Parleur. Merci beaucoup Alexandra Debézu, merci Erwan Manak d'avoir pris le temps de prendre le train, de penser les luttes avec nous aujourd'hui. Alors je rappelle vos titres, hein, Alexandra Debézu, vous êtes directrice générale déléguée de RAECOP, la première coopérative ferroviaire de France. On peut devenir sociétaire, même si on est simplement un particulier. Allez voir sur le site internet, c'est très simple, n'hésitez pas. Erwan Manak, vous êtes journaliste pour l'hebdomadaire Politis, co-auteur de la passionnante BD enquête Un train d'enfer dédié à la SNCF et à sa privatisation. Les dessins sont signés par Gwenaël Manak. Alors quant à nous, chers auditeurs, auditrices, on se retrouve la semaine prochaine, vous commencez à en avoir l'habitude. D'ici là, je vous signale que le répondeur de Radio Parleur est de retour. Vous pouvez nous laisser en fait des messages, il suffit d'appeler le 07 49 07 77 09. Vous parlez après le bip sonore. L'idée, c'est de récolter vos critiques, vos remarques, vos histoires, vos coups de gueule. On récupère tout ça, on en fait un beau podcast un peu création sonore. C'est à retrouver sur notre flux de podcast Pagaille dédié à la création sonore. N'hésitez pas, on a besoin de messages, on a envie de vous entendre. On compte sur vous. Très très bonne semaine à l'écoute du son de toutes les luttes. Salut.
Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net. Before my heart explodes, gotta get out before my heart explodes. Gotta get out before my heart explodes. Gotta get out before my heart explodes. Au flux et à mesure, le magazine de Tchat FM, du lundi au vendredi à 18h. Lundi, Shifumi avec des archives ou des productions exceptionnelles.
Il faut vivre et il faut penser intensément à notre époque, la construire et ne pas avoir peur. Et nous ne serons jamais, mais jamais trop en avance.
Vous venez d'écouter un podcast de la série Penser les luttes de Radio Parleur, média indépendant spécialisé dans la couverture des luttes sociales. Aujourd'hui, Erwan Manac et Alexandra Debézieux étaient les invités de l'émission pour parler de la privatisation de la SNCF. Vous pouvez dès maintenant retrouver le podcast sur le site jetfm.fr ainsi que sur celui de Radio Parleur et diverses plateformes d'écoute. À suivre dans l'immédiat, Rock à la Casbah. Bonne soirée sur Jet!